Contact FM, Communique Action.
Communique Action, une émission qui se fait très rare sur Contact FM, mais le sujet dont il va être question mérite bien au moins une heure d'antenne. Avec mes invités, nous allons parler éoliennes, un sujet qui fâche, inquiète et ne fait pas l'unanimité en Vallée du Loir, puisque les projets de lieux d'implantation sont nombreux. Les Sartois ne semblent pas forcément favorables à cette perspective. Inutile, ruineux et désastreux pour l'environnement sont les mots qui reviennent souvent. De plus, d'après la Demeure historique, Association des monuments et jardins historiques privés en France, le gouvernement a prévu de multiplier le nombre d'éoliennes par 2,5 d'ici à 2028. Pour discuter de ce sujet, je suis avec Christophe Cala, président de l'Association Protection de l'Environnement de la Vallée du Loir, du Lon et de l'Escotais. Philippe Moulaine, président de l'association Vent Contraire sur la Vallée du Loir, et Patrick Charvet, président de Protection de l'Environnement des Vallées du Dinan, de l'Ire et du Loir. Messieurs, bonjour.
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 Alors, est-ce que chacun peut expliquer sur quel secteur géographique vous vous situez et depuis combien de temps s'est constituée votre association pour un petit peu planter l'émission et après on parlera évidemment en détail de ce qui vous amène dans cette émission.
Bonjour, alors moi c'est Philippe Moulaine, donc Vent Contraire sur la Vallée du Loir. Donc nous sommes sur le terrain depuis, pour notre association, 15 ans et nous avons eu des projets divers et variés, mais en tous les cas, 7 promoteurs sur 4 zones qui entourent alors la commune de La Chapelle-Gauguin, qui maintenant fait partie de Loire-en-Vallée, commune nouvelle. Alors, sur ce sujet, évidemment, certains promoteurs sont restés. Aujourd'hui, nous avons encore 2 projets qui sont en implantation, pratiquement arrivés à l'enquête publique. Et donc, nos craintes, c'est de voir arriver ces 2 projets enfin sur une implantation. Donc, on a quand même, sur ces 7 promoteurs, il y en a quand même 5 qui sont partis et qui ont abandonné des zones qui étaient aussi intéressantes que celles qui sont impactées aujourd'hui.
Christophe Cala.
Alors Christophe Cala, donc président de l'association Protection des Vallées du Loir, du Lon et de l'Escotais, désigné sous le nom de PEVEL en raccourci, basé effectivement à 17 sous Courcillon, association créée en 2018, à proximité l'impact des éoliennes, c'est Marçon, c'est effectivement Saint-Pierre-de-Chevillé, c'est Saint-Christophe, ça peut toucher effectivement Saint-Paterne, Château du Loir, Vouvray, etc. Un pacte donc assez fort. Il y a déjà eu des projets auparavant. Il y a eu un projet en 2010 qui a été jusqu'en appel en 2016 et qui a été refusé. Ça n'a pas empêché, au lieu dit les rameries, ça n'a pas empêché un promoteur de revenir en 2018 pour proposer ses services. Et donc, nous sommes dans cette situation. J'ajouterais qu'à ce jour, 24 avril 2020, 24, monsieur le préfet de la Sarthe a pris un arrêté de rejet de ce projet d'éolienne. Donc à ce jour, les implantations sur 17 ont été refusées par la préfecture.
Voilà, c'est l'actualité toute fraîche.
Voilà, toute fraîche.
Parce que quand on a préparé cette émission, qu'on s'était vu, c'était bien avant cette date.
Voilà.
Et donc voilà, c'est tombé, le préfet a refusé. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas se mettre en place.
Tout à fait.
Patrick Charvet.
Donc l'association est jeune, très jeune, puisqu'on a un peu moins de 2 ans. Alors par rapport aux anciens, là, ça permet de nous avoir, d'avoir beaucoup de références et beaucoup de, bon, justement, d'expérience, et on en profite largement. L'implantation, elle est sur la commune de Thoiré, mais par contre, elle est placée de telle façon qu'elle impacte non pas tellement les habitants de Thoiré, mais elle impacte les habitants de Flé, dans une grande partie, puisqu'en fait, elle touche beaucoup de petits lotissements qui se trouvent en fait à proximité. Et le principal problème, c'est que justement, cet impact-là n'est pas pris en considération. Et donc, en fait, le but, nous, en fait, association, ce qu'on veut, c'est défendre en fait les intérêts des habitants. et surtout, en fait, limiter au maximum l'impact négatif qu'ils ont à subir du fait même que eux sont, donc les habitants de Flers, sont à presque 550-600 mètres des éoliennes qui vont être implantées. Le deuxième point, en fait, qui est important aussi dans notre combat, c'est que, comme disait Philippe tout à l'heure, on parle d'éoliennes au départ de un mât, on met un mât de 120 mètres, on parle d'éoliennes de 150 mètres, et finalement, on va se retrouver, en fait, avec des éoliennes qui sont aussi hautes que le premier étage de la Tour Eiffel. Donc, c'est sûr et certain que quand vous vous trouvez, en fait, à 600 mètres des éoliennes en question, ça a un impact visuel et un impact, je veux dire, un impact au quotidien qui est énorme par rapport, en fait, à ce que vous avez au départ dans votre vie. Vous avez envie d'être une tranquillité, vous n'avez pas envie, en fait, d'être à l'ombre de monuments comme ça.
Voilà, parce que au fil des ans, on peut voir que ces éoliennes, la grandeur évolue. On était à 100 mètres, là, vous venez de le dire. Maintenant, les éoliennes qui vont s'implanter, c'est au moins 200 mètres, c'est ça?
Oui, tout à fait. Effectivement, quand on a démarré, nous, on était sur des mâts de 50 mètres. Quand ils posent maintenant des mâts de mesure, on est sur des 120 mètres. Donc, on a doublé la capacité de mesure pour des simples et bonnes raisons que les éoliennes, à l'époque, étaient dans les 120 mètres de hauteur hors pale. Aujourd'hui, on est à 220-240 mètres. Donc, effectivement, on a un gigantisme qui vient de plus en plus en face de la même réalité, c'est-à-dire qu'on est toujours à 500 mètres des habitations.
Ça n'a pas évolué, par contre.
Ça n'a pas évolué. Donc, effectivement, l'impact a pratiquement visuellement doublé.
Alors, quand vous parlez de mâts de mesure, voilà, on va en parler maintenant, c'est les promoteurs qui installent des mâts pour mesurer, en fait, s'il y a assez de vent sur le lieu envisagé et savoir si ça vaut le coup d'implanter des éoliennes, hein, c'est ça?
Tout à fait.
Et ces mâts ont la hauteur d'une future éolienne?
Ils ont la hauteur pratiquement du mât, pas de l'éolienne en particulier, mais globalement, on va chercher surtout le vent un peu plus haut, évidemment, puisqu'il est forcément présent d'une capacité un peu plus importante. Mais quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas de courant. Hein. Donc, globalement, on est toujours sur le même phénomène. Hein. On voit sur l'Averna qui existe, qui est un projet qui a été abouti. Quand on passe à l'Averna, on voit régulièrement soit des éoliennes qui ne fonctionnent pas toutes, soit des éoliennes qui ne fonctionnent pas du tout. Donc, c'est très variable. Et c'est là-dessus aussi que ça nous pose problème, quoi.
L'association de l'Averna parlait en fait que les éoliennes tournaient à peu près à 25%, c'est ça, de leur capacité
Alors 25%, c'est même très... C'est plutôt de l'offshore qui tourne à 25-28%. Sur l'éolien terrestre, on est plutôt... Alors, dans les bonnes années, effectivement, l'année dernière, on a eu une année avant, on a frisé les 22-23%. En réalité, on est sur des années où on a eu du 17, du... Donc, et c'est très variable en fonction aussi des endroits où c'est implanté. Donc vous avez, alors c'est aussi notre le sujet de notre combat, c'est de dire que nous on a des vents, comme dit, des vents contraires entre guillemets, qui sont un petit peu très fluctuants par le fait qu'on a des bois, on a des vallées, donc ces vents sont très très dispersés. Et c'est ce qui se passe effectivement à l'Averna, c'est qu'on voit bien l'éolienne se tourner pour aller chercher le vent, et elle se tourne pas toutes en même temps. Et donc, régulièrement, on voit bien qu'il y en a une ou deux qui sont un peu en carafe par rapport aux autres. Et elles mettent du temps à se resituer pour aller chercher le vent. Donc ça, c'est un problème typique de nos territoires.
Je ferai juste une petite précision. C'est qu'il y a un problème mécanique qu'on n'aborde pas. Mais souvent, en fait, une éolienne qui tourne, elle ne produit pas. C'est-à-dire que pour que l'éolienne produise, il faut que le vent ait une force suffisante pour pouvoir enclencher la turbine. Parce que dès que vous enclenchez la turbine, il y a un phénomène de résistance qui fait que si le vent est faible, eh bien en fait, l'éolienne va s'arrêter. Pourquoi on fait tourner les éoliennes à vide? Tout simplement pour qu'elles ne se détériorent pas, parce que en fait, elles ne produisent pas, mais en fait, il faut qu'elles continuent à tourner pour s'entretenir. C'est un problème mécanique.
Alors, vos associations font partie d'une fédération, Vent de Sarthe, c'est ça, qui regroupe plusieurs associations sartoises. Cette fédération a vu le jour pour, on va dire, avoir plus de poids sur les institutions, la préfecture, la région des Pays de la Loire ou autre, où c'est vraiment pour affirmer encore plus vos arguments, quoi.
Tout à fait. En fait, ça nous a permis, effectivement, il y a 2 ans, de faire une manifestation et sur le Mans, face à la préfecture. On avait rencontré d'ailleurs le sous-préfet et on avait quelques élus et le président du département, Dominique Lemener, qui était avec nous. Et donc, on avait émis nos craintes sur nos différents territoires. Et donc, on avait réuni pas mal de monde grâce à cette fédération. Donc, la fédération, elle nous permet d'abord de connaître un peu tout l'ensemble des projets sur la Sarthe et puis de communiquer les uns les autres nos différents points de vue et nos expériences pour que chacun puisse s'en servir aussi par rapport à son propre projet. Donc on travaille là sur du collectif, entre guillemets, ce qui est aussi le cas d'un collectif qu'on a créé il y a 3 ans maintenant, collectif Vent du Loir, qui lui est situé vraiment sur la partie 41, 37 et 72 autour de la vallée du Loir et qui regroupe aussi une vingtaine d'associations. On est sur, à la fois sur un collectif qui est très ciblé Sud-Sarthe et puis une fédération qui, elle, rayonne sur l'ensemble de la Sarthe. Et on est sur 20-25 associations à chaque fois. Voilà, donc ça nous permet aussi d'échanger et de rester en contact permanent.
Et on peut rajouter la participation que chaque association peut avoir au plan de fédération nationale.
Alors, vous savez combien il existe d'associations comme les vôtres en Sarthe? Là, vous en représentez 3, basées quand même sur le Sud-Sarthe. Le Sud-Sarthe est quand même plus propice, on va dire, à ces implantations que le reste du département, ou pas forcément?
Non, pas forcément. En fait, si on regarde la carte de la fédération, on s'aperçoit que le rayonnement des projets est plutôt sur l'extérieur de la Sarthe, donc aux confins du département. Et donc le Sud-Sarthe, évidemment, mais le Nord-Sarthe est très impacté aussi, puisque eux, ils ont déjà des projets qui sont aboutis et qui tournent, et ils en ont énormément en préparation. Donc on voit bien, d'ailleurs, notre sujet aussi en Sud-Sarthe, c'est de se dire, regardez ce qui se passe en Nord-Sarthe, et dès qu'un projet est abouti, vous avez un nombre de projets autour qui va aboutir d'une manière assez évidente. Donc... Mais si on regarde la carte, il y en a un petit peu tout autour. Et plus on se rapproche du Mans, évidemment, moins il y en a. Donc voilà.
Alors, combien d'associations en Sarthe, vous le savez?
À peu près 25 associations.
D'accord.
Oui, tout à fait.
Et combien de parcs éoliens existent en Sarthe, là, à ce jour?
Au global, on doit se retrouver... j'ai pas le chiffre exact, mais on est bien sur une centaine de projets.
Centaine de projets?
Ah, oui, sur l'ensemble de la Sarthe, oui, tout à fait.
Et
alors, quand on dit projet, c'est vraiment, il y en a qui viennent de sortir, et puis il y en a qui sont là depuis 15 ans, donc c'est 15-20 ans même. Ça dure très longtemps avant d'aboutir, parce qu'il y a quand même un effet sur le terrain de gens qui ne sont pas d'accord et qui émettent des craintes et qui sont quand même écoutés, Donc, voilà.
Votre image, 15 ans de combat, on va dire.
Oui, tout à fait.
Faut pas s'essouffler. Faut croire aussi, en ces arguments. Et puis, il faut que la population aussi, qu'on le disait avant l'émission, les habitants changent. On se dit, ça fait 15 ans que vous êtes là, mais il n'y a pas d'éoliennes, donc ça se fera jamais.
Oui.
Mais si vous n'êtes pas vigilant et que vous n'êtes pas toujours sur le terrain et auprès de la population, auprès des élus, il risque de se passer l'implantation.
Tout à fait. C'est un peu notre rôle, c'est d'être toujours là, présent, avec le contact évidemment des élus, au maximum, puisqu'on suit aussi l'évolution. On n'a pas toujours les informations. Et donc, les mairies nous redonnent les informations qu'ils ont, eux, de leur côté. Je vois sur Loire-en-Vallée, par exemple, on a les retours de la mairie pour savoir un peu ce qu'il en est.
Il y a une phase très très difficile, c'est la phase du stress psychologique, puisque le promoteur va s'ingénier, d'abord à valoriser son projet, deuxièmement à le rendre beaucoup plus important que ce que sera la réalité finale. Je prends un exemple, Dissé sous Courcillon, c'était 2x4 éoliennes, à 3 km de distance. Cela fait bien sûr réagir, ce qui permet au promoteur, un an ou 2 ans après, de dire que pour tenir compte effectivement de la configuration du lieu et des remarques des habitants, le projet passe à 2x2 éoliennes, en montrant sa capacité à s'adapter, à tenir compte de nos avis.
Et ce qu'on disait aussi avant l'émission, c'est qu'un promoteur peut présenter un projet, ce projet est rejeté, et il peut revenir comme ça indéfiniment, en se servant évidemment des conseils, des arguments, pour refaire un projet et se dire à un moment il va être accepté.
Tout à fait.
Il n'y a pas de dire, c'est bon, vous avez été rejeté 3 fois, c'est fini, vous n'allez pas revenir.
Non, c'est ce qui se passe sur Montaillé-Coudrecieux, effectivement. Ils ont été jusqu'au bout des recours. Le département a rejeté systématiquement pour des raisons légitimes hein, de protection de la forêt de Vibraye, principalement, et des chiroptères, évidemment. Et donc, ils reviennent avec le même projet, ils redéposent, ils repartent à zéro en reposant un mât, etc. Donc, ils sont repartis pour des années d'études et de lutte, entre guillemets, pour les associations.
Ben, en fait, si vous voulez, l'explication, elle est simple. Quand vous avez, en fait, une entreprise qui cherche à s'implanter, elle a un budget, en fait. Et un budget qui est, quand on le met en rapport avec le budget des associations, c'est complètement disproportionné. C'est un peu David contre Goliath. Le budget, en fait, d'une entreprise, c'est 200 000 euros qui est disponible pour pouvoir arriver à aboutir, en fait, à un résultat. Alors, on imagine bien que derrière tout ça, il y a quand même des intérêts financiers, en fait, qui ne sont pas totalement avoués et totalement déterminés et qui permettent à ces entreprises d'avoir un budget très important et donc avoir la possibilité de recours très important parce que vous prenez un recours, par exemple, au Conseil d'État, c'est 5 000 euros minimum. Bon, les associations ont du mal, mais eux n'ont pas de mal.
C'est une goutte d'eau pour eux par rapport aux adhésions voilà, que vous récupérez et aux dons de soutien. Voilà. Alors, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet pour expliquer que vous n'êtes pas forcément, on va dire, contre l'éolien, mais vous êtes plutôt opposé à l'implantation, on va dire, anarchique et abusive des éoliennes. Selon les endroits géographiques, ça détruit l'environnement et les paysages. C'est pour ça que vous vous battez. Vous n'êtes pas des opposants purs et durs à l'éolien en lui-même.
On finit par l'être parce que, compte tenu de l'acharnement des promoteurs, on finit évidemment par être un petit peu anti. En réalité, effectivement, si on avait une démarche un petit peu plus claire en disant, écoutez, on a un territoire, parlons-en d'abord, essayons de trouver un peu ce qu'on peut faire, ce qui est légitime et ce qui pourrait améliorer ou poser problème. Avant tout, avant de faire cette démarche que les promoteurs ont, c'est-à-dire d'aller voir les propriétaires terriens, de leur faire signer des baux, et puis après d'aller voir en mairie, et après de contacter par voie publique la population, ce qui déjà est trop tard.
Parce que, en fait, quand on regarde bien, qui est-ce qui connaît l'environnement ? C'est pas, en fait, les promoteurs. Eux, ils arrivent, en fait, sur des zones où ils connaissent rien du tout.
Mais justement, comment les promoteurs choisissent les zones sur lesquelles ils veulent s'implanter ?
Google Earth, vous pouvez tout à fait regarder là où vous êtes assise, vous pouvez tout à fait rentrer sur votre ordinateur et voir des lieux qui sont propices à l'implantation d'éoliennes parce qu'on peut se trouver, pour exemple, à plus de 500 mètres d'habitation et voir qu'une configuration est possible. Donc vous avez un démarchage qui se fait en bureau déjà.
En fait, c'est la zone des 500 mètres qui détermine, hein, mais elle est légitime depuis plus de 20 ans. Hein, depuis le début des projets éoliens, on a déterminé les 500 mètres. Donc, ils ont fait des cercles avec des compas autour des habitations pour déterminer des zones qui sont, entre guillemets, neutres de toute habitation. Et donc, ce sont ces 500 mètres qui créent ces zones.
Pour ce qui est de votre combat respectif, par exemple vous, Philippe Moulaine, qu'est-ce qui vous gêne dans le projet qui est proposé sur votre territoire ?
Le problème, il est multiple pour l'instant. Pour la Chapelle Gauguin, notre commune, on est quand même entouré de 4 zones, dont 2 qui sont aujourd'hui encore porteuses de projets. Une sur Bessé-sur-Braye qui va impacter évidemment la vallée du Loir, qui, à ce propos, a changé il y a à peu près 6 mois, puisqu'ils ont changé les hauteurs des éoliennes. De 5 éoliennes de 150 mètres de haut, ils sont passés à 4 éoliennes de 200 mètres de haut. Donc, sans en parler, évidemment, à la population. Donc, ça a été découvert lors de nos réunions à Bonnevaux, juste en face, dans le 41, qui est très impacté par ce projet. Et donc, ça, c'est un des 2 projets qui reste et qui est presque abouti en termes d'études, puisque aujourd'hui, on aura une enquête publique qui va très, très prochainement être ouverte. Et puis, l'autre projet, c'est sur les hauteurs de... Alors, on va dire géographiquement au-dessus de la commune de Vancé, mais en réalité, c'est un projet qui est sur la commune de Rueil-sur-Loire, qui est géré par le promoteur Abowind, et qui comporte 5 éoliennes de 180 mètres de haut. Donc ce projet, il est présent depuis 2010. Ce promoteur était un petit peu gêné par le radar de Tours qui limitait la hauteur à l'époque des éoliennes en fonction de ce radar, qui aujourd'hui, ce radar n'existant plus, bah, ils ont attendu en fait la fermeture de ce poste radar pour pouvoir relancer le projet avec ces éoliennes évidemment plus hautes qu'au départ. Donc on est encore là sur deux projets qui sont sur le point d'être en bout d'étude, hein, en bout de... Voilà.
Oui, effectivement, on assiste à un acharnement, mais il faut souligner le côté financier de l'opération pour les promoteurs. Très récemment, on va en parler sûrement, vous avez eu un certain nombre de jugements. C'est-à-dire qu'on est passé d'une phase où celui qui posait des questions ou qui disait « est-ce vraiment intéressant de mettre des éoliennes ?» passait pour un empêcheur de tourner en rond. Le nombre de jugements qu'on a aujourd'hui, de limites de dossiers qui ont été remis par des promoteurs, font qu'on a acquis une certaine légitimité maintenant. Récemment, un promoteur a été condamné à verser à peu près 1 million à différents riverains qui se plaignaient des nuisances. On a maintenant beaucoup plus de possibilités de s'affirmer, si vous voulez lui dire, mais non, ce n'est pas la panacée, et effectivement, il y a des nuisances.
Et concernant 17 sous Courcillon, le projet, qu'est-ce qui vous dérange et en quoi voilà, vous vous battez?
Je vous dirais que le projet, qu'est-ce qui le dérange? Puisque le promoteur en 2018 a eu cette idée de reprendre sur des projets qui avaient déjà été refusés, de reprendre. Bon, nous sommes ce qu'on appelle sa demande d'autorisation environnementale, c'est-à-dire tout le dossier étudié, la faune, la flore, l'impact sur les paysages, etc., etc. Tout ça est remis en préfecture. Des services de l'administration, notamment aussi, étudient le dossier, voient les conformités ou les risques, ou vraiment les risques potentiels. Notre association, dans le cas présent, a fait partie de ceux qui ont soulevé les questions, qui ont dit à l'habitant, est-ce que c'est vraiment utile? Je vous donne un exemple. Nous avons en fond de vallée, Dissès est un bourg relativement ramassé. En fond de vallée, l'éolienne, déjà, vous êtes sur des hauteurs de 60 ou 80 mètres. Vous rajoutez 180 mètres ou 190 mètres. Vous voyez à quelle hauteur va être l'éolienne? Et pour des habitations, à 500, 550 mètres, 600 mètres, effectivement, de là. Notre vallée du Loir est très belle. Et nous, à Dissès, nous avons un certain nombre de bâtiments qui sont des bâtiments classés, monuments historiques, etc. Dont des promenades autour des menhirs, etc. Quel dommage. Je termine en vous expliquant que lorsqu'on prend la route dite de la Jolivrie pour aller au château de Courcillon, nous avions été avec Patrick et un de vos confrères, effectivement, pour lui montrer les projets et l'impact des projets Dissès et Thoiry-sur-Dinan sur l'ensemble du paysage. Eh bien, nous avions la chance de voir 5 éoliennes qui étaient chenues, 4 éoliennes qui étaient la Verna. Nous aurions 2 fois 2 éoliennes supplémentaires mises sur Dissès et nous avions Thoiry-sur-Dinan qui... nous abreuvait de 2 éoliennes supplémentaires. C'est-à-dire que nous étions dans un cercle.
Complètement
fermé,
entouré.
Complètement fermé.
Et à Thoiry-sur-Dinan, donc?
Bon, nous, comme je l'ai dit, on est quand même plus récent. Donc, en fait, on n'a pas cette vision globalisée que peuvent avoir Philippe et puis Christophe. Seulement, moi, ce qui me surprend beaucoup dans tout ça, c'est la désinvolture avec laquelle on traite en fait les populations. Parce que quand même, on impose en fait, on va imposer à des gens, par exemple, vous avez acheté votre petite maison, vous êtes tranquille, vous êtes installé, c'est votre petit havre de paix, vous bossez toute la semaine, vous rentrez, vous êtes au calme, ou vous rentrez le soir, vous êtes au calme aussi. Et en fait, tout d'un coup, en fait, vous allez vous retrouver avec à 600 mètres de votre habitation, une éolienne sur la colline qui vous domine, et en fait, comme disait Christophe, qui monte à 200 mètres, c'est-à-dire l'équivalent, comme je le disais tout à l'heure, du premier étage de la Tour Eiffel. Quelque part, votre petit bien-être, en fait, il disparaît complètement. Et c'est pas tout, parce que cet impact personnel, c'est pas qu'un impact personnel, c'est aussi un impact financier. Par exemple, vous subissez cette installation, votre bien, il peut se dévaluer de 40%. Et en se dévaluant de 40%, vous avez par exemple un accident de la vie, vous voulez vendre votre maison, vous avez un crédit sur la maison, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez peut-être même pas vendre pour rembourser votre crédit. Non, mais je veux dire, en fait, quelque part, qu'est-ce que c'est que cette idée qui est de dire, en fait, on ne considère rien, on ne considère pas les gens, on ne considère pas les individus, ils n'existent pas. Moi, je dis, c'est ça, c'est quelque chose qui me révolte profondément. Et dans notre association, on a, en fait, surtout à Thoiré, énormément d'habitations qui sont, en fait, concernées par cette dévaluation, en fait, du bien immobilier.
Alors voilà, c'est vous défendez le patrimoine paysager, effectivement, la qualité de vie des habitants, alors les nuisances visuelles et sonores et les valeurs foncières. Est-ce que l'éolien est reconnu pour avoir un impact sur la santé? On parlait que ça pouvait perturber les vaches, mais est-ce que des études vraiment existent sur l'impact sur l'humain, notamment?
Alors, je fais juste une précision, vous posez une bonne question. Parce qu'il s'avère qu'on remet en fait ces études, elles sont faites comme par hasard sur un organisme qui dépend en fait du ministère de la Transition écologique. Donc lequel est le même qui procède à l'installation en fait des éoliennes. Donc vous voyez que quelque part le problème peut être un petit peu faussé.
Je pense qu'il y a effectivement un problème d'indépendance des études souvent. Que ce soit au niveau des études chiroptères, au niveau des études généralement autour et des impacts sur la santé. Évidemment, il y a eu effectivement des études, mais qui n'ont pas été retenues parce que on n'a pas voulu non plus trop se pencher sur le problème, je pense. Donc,
Savez, je vais vous faire juste une précision. C'est un exemple personnel. Il y a une personne, en fait, qui a un problème de valve cardiaque. Là, justement, dans la région de... Tout à proximité, leur maison est située à 600 mètres de l'implantation prévue. Et en fait, elle demande à son cardiologue, est-ce que, en fait, justement, ça aura un impact? Elle n'arrive pas à avoir une opinion nette, précise, de son cardiologue concernant, en fait, l'impact que peut avoir, en fait, justement, l'éolienne, là où elle est placée, par rapport, en fait, à sa valve cardiaque. Or,
Bizarre qu'il n'y ait pas d'étude là-dessus, quoi.
Non, ce n'est pas une étude, mais en même temps, pourquoi, en fait, le cardiologue ne dit rien? On sait que, en fait, les éoliennes ont des phénomènes électriques par induction très importants. Donc, en réalité, il est sûr et certain que sa valve cardiaque va être impactée. De quelle façon et à quelle hauteur? Ça, on ne peut pas le déterminer. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui ce qu'il en est. Mais il est sûr et certain que ça sera impacté. Et pourquoi le cardiologue ne veut pas donner son opinion?
Il y a maintenant tellement de jugements qui ont été dans ce sens-là, en appel, etc., et qui ont effectivement constaté toutes ces nuisances, tant au point de vue des humains, tant au point de vue au niveau de la santé, des impacts, si vous voulez. Donc aujourd'hui, on n'est plus dans le flou. Aujourd'hui, on sait que ça a été jugé et que c'est réel.
Alors, concernant ces projets, vous l'avez dit, les promoteurs vont voir les particuliers pour savoir si les zones ou les terrains peuvent être pris pour de l'éolien. Après, ces promoteurs vont voir les municipalités, c'est ça?
Oui.
Et les élus dans tout ça, vous êtes en lien avec eux. Certains, on peut le voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Saint-Pierre du Lorouet, c'est non, elle ne veut pas l'entendre parler. Mais est-ce que d'autres maires se laissent peut-être berner, entre guillemets, ou se disent ça fait des rentrées financières et le dialogue avec vous peut être compliqué? Est-ce que vous voulez parler de ça?
Oui, alors j'ai l'exemple, entre guillemets, sur les deux projets qui nous inquiètent. Le projet de Valeco sur BC. Effectivement, lui, il est totalement acquis par la municipalité. Donc,
vous parlez du maire.
Du maire, donc ils sont porteurs du projet sans problème depuis le début. Nous, par rapport à eux, évidemment, on a plus de difficultés à se faire entendre, malgré des réunions pour leur donner les problématiques que ça peut engendrer. Ils sont assez sourds à ces arguments, parce qu'en fait, Le côté financier est quand même très présent sur la finalité du projet. Et donc, le promoteur met en exergue souvent quelques subsides. Donc, sur BC, ça a été un des arguments forts de ce projet. Donc, et contrairement à celui de Ruyé, qui, lui, a continué à se faire sur une municipalité antérieure à l'actuelle, qui avait à l'époque été pour et qui aujourd'hui a voté en délibération contre le projet. Donc même eux n'ont plus la main sur le projet à partir du moment où le projet il démarre, la commune est totalement, qu'elle soit à nouveau pour ou contre, qu'elle change d'avis, ne changera rien à l'évolution du projet et à sa continuité. Donc ça, il faut le savoir aussi.
De plus, j'ajouterais que même si la commune, est, par exemple, refuse le projet par délibération du conseil municipal, ça n'empêche pas, en fait, le projet d'être mis en cours. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un accord, en fait. C'est un permis de construire que demande, en fait, le promoteur. Il demande, en fait, un permis de construire, et le permis de construire, il est délivré par la préfecture. Et la préfecture, elle a, en fait, les instructions du ministère de la Transition écologique, qui lui-même doit rendre des comptes à la Commission européenne, puisque c'est elle qui décide, en fait, de l'implantation des éoliennes en France. Donc, à partir de ce moment-là, on sent bien qu'il y a quelque chose d'un peu faussé là-dedans. Et j'ajouterais qu'aujourd'hui, la Commission européenne, bon, c'est juste une petite nuance que je fais, mais la Commission européenne est en train de pénaliser la France parce qu'on n'atteint pas le quota de mégawatts possible en éolien en France. Donc, en réalité, si vous voulez, il y a une pression, en fait, au niveau au plus haut qui se reporte, en fait, sur nous, petites associations, qui essayons simplement de défendre un peu le bien-être, en fait, des populations, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est excessif par rapport, en fait, à la demande et à la réalité.
La grande question d'aujourd'hui, c'est, si vous voulez, c'est qu'en priorité, l'électricité produite par les éoliennes doit être achetée aux promoteurs. Imaginons, EDF a tout à fait les moyens, à un moment donné, de largement pour couvrir les besoins de la France, mais les promoteurs continuent à faire tourner leurs machines. Et donc, l'électricité doit être achetée en priorité au coût, à un coût fixé avec les promoteurs, qui n'a rien à voir, qui n'a rien, absolument rien à voir avec le coût à laquelle EDF mettrait son électricité effectivement à disposition. Et aujourd'hui, on peut arriver dans un moment de surproduction. Vous avez des moments de surproduction sur lesquels vous allez être obligé d'acheter une électricité très chère. Donc, nous disons peut-être, pour répondre à la question de Patrick sur la Commission européenne, qu'on aimerait effectivement que des faits, des chiffres soient effectivement mis sur la table et qu'on ait la vérité dans ce domaine.
Il faut savoir que dans la production électrique en France, on donne la priorité à l'éolien, d'accord ? Donc, quand vous avez une production industrielle de type hydroélectrique ou nucléaire, vous avez en fait des programmes de production. Par rapport à la demande, on sait à peu près ce que ça va donner, etc. et tout. Donc, en fait, on fait monter la pression bon, dans les centrales nucléaires, dans l'hydroélectrique, on augmente en fait la production, etc. et tout. Mais tout d'un coup, on a en fait une surproduction au niveau de l'éolien parce qu'il y a une zone de vent très importante. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on a la double peine. On est obligé d'acheter en fait l'électricité, EDF est obligé d'acheter l'électricité éolienne au prix le plus fort et est obligé de mettre en fait toutes ses productions industrielles en sommeil ou diminuer rapidement de façon à éviter en fait la surproduction, etc. et tout. Voilà. Donc en fait, vous savez, plus on analyse les choses et plus on les regarde, comme je dis. Moi, ça fait que 2 ans que je regarde tout ça, mais je m'aperçois que, bon, il y a quelque chose qui tourne pas rond, en fait. On n'est pas dans une finalité économique intéressante et forte et justifiée. On est dans une situation où on essaie de nous imposer quelque chose qui n'est pas forcément, en fait, à la hauteur de l'enjeu.
Et vous, à Toiré-sur-Dinan, la municipalité, elle a quelle position ?
Alors, la municipalité, elle est tout à fait pour. Les relations qu'on a avec eux, bon, sont assez minimes parce que le maire, de toute façon, a dit oui. Et le maire, en fait, considère que lui sait ce qui est bien pour ses administrés. Donc, en conséquence de quoi, la discussion n'est pas ouverte.
Et à Dissay-sous-Courcillon ?
Alors, Dissay-sous-Courcillon, il faut bien voir, je vous ai parlé du projet de 2010. Il a été, même avant 2010, initié le temps d'un ancien maire qui était une personnalité locale forte, qui a été repris par son successeur en 2010, qui est après, je vous dis, en 2018, le successeur toujours en question a repris ce fameux projet qui est aujourd'hui changement de municipalité. Mais je veux dire, le maire et les principaux adjoints étaient tout à fait pour ce projet. Il y avait une opposition, si vous voulez, je dirais plutôt des élus qui posaient des questions, qui disaient « mais qu'est-ce que c'est que ce projet ? On n'a pas d'éléments. Pour exemple, il n'y avait pas de dossier. Le promoteur n'a pas remis de dossier pour savoir exactement ce qu'il allait faire. En tout cas, il a été perdu. Voyez. Donc,
Alors, quelles actions menez-vous pour vous faire entendre? Donc voilà, on voit interpeller les élus locaux notamment, c'est compliqué. Des lettres aux institutions, vous sensibilisez, j'imagine, auprès de la population. Est-ce que vous manifestez? On peut voir des fois des banderoles dans des communes, des bulletins d'information, des réunions publiques. C'est ce qui peut informer et continuer, on va dire, le combat.
On essaye effectivement d'être présent au maximum sur des événements. Par exemple, on avait fait une petite manifestation, entre guillemets, lors de l'inauguration de la voie verte à Poncé-sur-le-Loire. Donc, on était présent pour montrer qu'on avait beaucoup de projets touristiques qui se développaient et sur lesquels on était totalement en accord, parce que quelque part, il est bien de développer tous les outils qui permettent à la population et puis aux touristes de venir et puis de découvrir cette belle vallée. Donc, en l'occurrence, on ne comprenait pas le double message, entre guillemets, qui était servi par le fait qu'on allait industrialiser une zone sur laquelle on voulait conserver, quelque part, une vallée touristiquement très, 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 très intéressante. Donc, on travaille beaucoup sur ce sujet-là. Et puis, on était effectivement présents en collectif. On se réunit souvent en association sur des événements.
Les comices, notamment l'année dernière.
Absolument. Tout ce qui peut permettre de distribuer un peu de l'information à la population et surtout les dernières informations, puisque ça évolue au fur et à mesure. Et donc, notre présence aujourd'hui avec vous fait partie aussi de cette démarche.
Vous, c'est pareil, j'imagine que vous agissez de la même façon que Philippe Moulin, respectivement.
Tout à fait. J'ajouterais aussi le volet politique, c'est-à-dire que nous avons rencontré nos communautés de communes respectives, nous avons eu un bon accueil, nous avons pu expliquer nos préoccupations, nos soucis. Nous avons rencontré le pays Vallée du Loire aussi, et nous avons eu une réunion de nos associations effectivement avec eux pour expliquer nos préoccupations, nos points d'interrogation très forts. Puisque le pays Vallée du Loire voulait lui aussi prendre en charge un dossier qui était remis à la préfecture sur les énergies renouvelables. Donc on s'inscrivait tout à fait dans une optique souhaitée par nos élus. Et bien sûr, nous essayons d'être en contact avec les administrations préfectorales aussi, pour faire entendre ou essayer d'avoir un peu d'informations.
Pour nous, chez Atoiré, en fait, on attend en fait le dépôt là, du dossier environnemental qui devrait avoir lieu au mois de juillet, pour savoir un petit peu justement de quelle façon on va en fait pouvoir réagir à ce projet. Le problème que l'on a en fait, si vous voulez, nous association, c'est que on est face en fait, c'est le temps long. C'est-à-dire que on a en fait un projet, on en parle, tout d'un coup on arrive à motiver un petit peu les gens et donc en fait à avoir en fait une présence un peu plus importante de la population. Et puis, c'est le temps long. Donc, en fait, c'est dilué. On attend ceci, on attend cela, on attend l'enquête publique, on attend le dépôt du dossier environnemental, etc. Et tout. Et
donc, ces délais, justement, c'est fait pour décourager un peu les associations, on peut
non,
dire.
Je pense que c'est l'administration
qui lente, veut que ça soit... Mais ça peut décourager certains aussi, par contre.
Forcément.
Voilà. C'est même dans le projet lui-même. Un mât de mesure, il doit, sur un an, deux ans, effectuer des mesures. D'autres captages doivent exister. Donc vous avez déjà intrinsèquement un temps de délai qui ne peut pas, en tout cas sur la partie, toute la partie étude, qui ne peut pas tellement être raccourci.
Alors qui va de plus en plus se réduire, puisqu'en fait il y a une accélération. Voilà. Hein, le gouvernement veut accélérer ses implantations d'éoliennes un peu partout. Donc il y a eu effectivement aussi plein de mesures pour accélérer, parce qu'ils se sont bien rendus compte que ça durait 10, 15 ans, voire 20 ans pour un seul parc. Donc, effectivement, ça, ils ont tendance à mettre un petit peu... pour le coup, on a moins de leviers qu'avant pour se défendre aussi. Hein, donc, des problématiques.
Si vous voulez, je pense qu'on est victime aussi du fait qu'il y a eu des procédures précédentes qui ont créé des jurisprudences. Et donc, en fait, la loi, elle, s'adapte avec ces jurisprudences de façon à contourner un petit peu... les difficultés. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi cette pression en fait de la Commission européenne qui veut absolument en fait qu'on arrive à l'implantation des 80 000 éoliennes qui sont prévues pour la France.
Et les informations que vous souhaitez vous transmettre à la population, c'est compliqué de les avoir. Vous vous adressez où pour être au courant, voilà, de ce que les promoteurs peuvent mettre en place? Est-ce que vous avez les informations aussi du gouvernement par rapport aux implantations d'éoliennes en France, ou est-ce que on vous met des barrières pour avoir accès à ces informations?
Là-dessus, si vous voulez, il y a tous les moyens de communication du promoteur. Le promoteur a intérêt à susciter un enthousiasme délirant dans la collectivité où il cherche à s'implanter. Donc le promoteur va effectivement faire une communication relativement soutenue. J'ai amené ici le dernier tract du promoteur, le dernier dépliant du promoteur, pour vous montrer la qualité. Donc lui va avoir une communication très active, va organiser des réunions, va effectivement essayer d'expliquer son projet, peut tout à fait employer des personnes à faire du porte-à-porte pour distribuer, demander à la mairie de publier les quelques articles, ne serait-ce que dans le bulletin municipal, inciter à la découverte de ce projet grandiose. On peut aussi insister auprès de la mairie en disant « mais si ce projet se fait, vous avez sûrement des envies d'aménagement sportif, d'aménagement culturel, mais nous sommes tout à fait prêts à en discuter ». Je prends l'exemple de Dissay. Dissay devait avoir un parcours de santé. Dissay n'a pas de parcours de santé. Et Dissay avait un parcours de santé que le promoteur s'engageait effectivement à réaliser. Donc tout ça, c'est des coûts supplémentaires. Que le promoteur, s'il propose un parcours de santé, l'argent, il va le chercher. Voilà, donc voilà, je vous ai un peu illustré. Alors, on dépense beaucoup nos semelles de chaussures parce que c'est le porte-à-porte, vous comprenez? C'est pas facile de faire venir des gens pour une réunion d'information qui va avoir un côté technique, rébarbatif. Et puis après tout, est-ce que c'est aussi grave qu'on nous le dit? Est-ce que vraiment on sera dans cette situation-là? Donc il faut qu'on use et qu'on arpente nos chemins.
Avec les années, on a un réseau qui s'est constitué quand même. Donc globalement, les informations, souvent, si on ne les a pas de la mairie, on les a par des informateurs, entre guillemets, assez surprenants des fois. C'est naturellement que les gens viennent nous voir pour nous dire... J'ai effectivement participé à telle ou telle réunion. Est-ce que tu es au courant de ce qui se passe? Oui, non, etc. Donc, ça nous aide aussi à avoir des informations complémentaires à celles qui sont délivrées par les mairies ou pas.
Et la population dans tout ça, par exemple, à Thoiré, ça l'inquiète?
Si vous voulez, je pense que la population est inquiète. Mais comme je disais, je vous l'expliquais tout à l'heure, la motivation, en fait, dans le temps long, elle se défait. Les gens, ils sont concernés. Il y a plusieurs hameaux qui sont catastrophés de ce qui leur arrive, en fait, qui se disent, mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Mais en même temps, ils étaient très présents, ils sont encore très présents, mais ils étaient beaucoup plus présents, en fait, au début, en fait, quand on a commencé avec l'association. Là, maintenant, ils disent, mais est-ce qu'on n'est pas dans ce combat, en fait, complètement... pipé, dans la mesure où, qu'est-ce qu'on a comme moyen pour se défendre contre ça, quoi. Donc, il y a une espèce de, je dirais pas une passivité, mais une acceptation qui est, en fait, préjudiciable, et je crois qu'il faut surtout pas accepter. Il faut faire valoir, en fait, ses points de vue, et il faut surtout, en fait, continuer à dire, en fait, on n'en veut pas pour telle et telle raison. Et on n'en veut pas parce qu'on ne veut pas d'énergie renouvelable. On n'en veut pas parce que ça a un impact sur notre vie.
À Dissay, la population, Christophe Cala, la santé comment?
Je veux dire, comment dirais-je, à Dissay, nous avions même été jusqu'à créer effectivement un peu un comité de consultation entre l'association et les élus, ce qui nous a permis effectivement de poser un certain nombre de questions. Puis l'affaire effectivement à suivre. Alors, les habitants, on a fait surtout toute une campagne de communication axée sur, en tout cas, l'impact visuel des éoliennes, à la fois sur la commune de Dissay, etc., et sur les autres communes. Et nous avons réalisé nos photomontages, comme l'Adréal, direction demande. C'est-à-dire que nous avions les 40 pages qui expliquent comment les photos doivent être prises, et nous avons fait appel à un photographe professionnel pour faire comme c'était. Bien sûr, on a constaté des distorsions relativement importantes entre le catalogue de 1500 pages, qui est le dossier remis par le promoteur, et les 80 photos que nous avons prises. Alors effectivement, pour les personnes, c'était parlant. je vais avoir ça en face de chez moi. On arrive tout à fait à construire, localiser, définir ce que va être effectivement une éolienne si elle est construite.
Et vous, sur votre territoire, on vous connaît depuis 15 ans, donc...
Le problème étant la dilution du temps qui fait qu'il y a une lassitude. Et puis à la fois, la population n'y croit pas, ou n'y croit plus. Donc le fait que ce ne soit pas fait aussi vite qu'ils ne pensaient, au jour d'aujourd'hui, ils se disent que finalement, ça ne se fera pas. Voilà, donc face à ça, on a beaucoup de... Il faut vraiment refaire des réunions, ce qu'on va faire d'ailleurs très bientôt sur la commune de Vancé, qui nous permet d'avoir une salle sur laquelle on est un peu au centre du problème sur cette commune. Et donc, on travaille avec eux depuis longtemps. Le maire nous soutient pleinement. Et donc, par rapport à ça, on pourra à nouveau donner les informations, les dernières informations. Toujours être actualisé ce qui se passe. Et les mairies ne le font pas, ça. Donc, notre travail, finalement, c'est de suivre l'information au plus près et puis de la redonner à la population.
De façon régulière aussi.
De façon régulière, quand on peut. Et puis, par le biais de réunions qui devraient logiquement être faites par les communes un peu plus, parce qu'il y a quand même très peu de réunions publiques. On en fait une la plupart du temps sur le sujet, et puis
après on
n'entend plus parler. Et je trouve qu'il devrait y avoir régulièrement des réunions pour dire, on en est à tel stade, etc. Et le promoteur ne le fait pas non plus.
Faire un suivi dans l'avancée du projet.
Il y a un coût financier qu'il faut souligner. Avant, on pouvait faire des recours devant le tribunal administratif. Premier échelon, gratuit. Il a été adopté de nouvelles mesures. Il y a déjà un certain temps dans lequel le recours ne pourrait se faire qu'en appel. Nous, association, si nous avions des raisons, effectivement, de dire non, ce projet est inacceptable, et voilà la raison, il faut que nous allions en appel. Aller en appel, c'est systématiquement prendre un avocat.
C'est un coût.
C'est à peu près un coût de 9 000 à 10 000 euros. C'est là où je vous indique, c'est à peu près ça, si vous voulez, si avec les complications, les études complémentaires. Il faut bien comprendre que si on s'oppose, il faut qu'on justifie.
Prouver.
Donc il faut refaire des études telles que promoteur les a faites, parce qu'on considère qu'elles n'ont pas été. Les études, c'est 1 000, 2 000 euros, 3 000 euros qui vont venir s'ajouter pour le dossier. Donc on se trouve dans une situation de la lutte du pot de terre contre le pot de fer, si vous voulez. Il y a cette usure qui peut arriver.
Et est-ce que vous, en tant qu'association, vous avez le droit, évidemment, de faire des demandes auprès des municipalités pour avoir des subventions? Est-ce que vous faites partie des associations qui postulent, qui donnent des projets, un dossier en tout cas à la mairie, mais après, les collectivités, par exemple Dissay ou Thoiré, n'ont pas des budgets, mais est-ce que vous avez... Non. Une subvention quand même de la commune, même si elle est opposée à votre association dans son projet.
N'oubliez pas que Dissay est favorable au projet.
Oui, voilà.
Et toujours, donc, il l'a même indiqué, le maire a même indiqué dans le dossier, que le promoteur ferait sûrement appel. Donc la commune de Dissay ne m'a pas proposé des
subventions.
Des subsides.
D'où sur Thoiré, comme je disais, l'impact, en fait, il est sur la commune de Flé, il est sur la commune de Beaumont, il est sur la commune de Jupille. Donc en réalité... L'association est domiciliée à Beaumont, et Beaumont m'a dit que si on voulait une petite subvention comme les autres associations, c'était tout à fait possible.
Une commune doit être neutre par rapport au contenu et à la défense de...
Vous savez, il y a quelque chose de paradoxal sur Thoiré. Thoiré, en fait, on est en proximité de la forêt de Bercé. La forêt de Bercé, elle est classée forêt d'exception, et en même temps, toutes les communes en fait limitrophes de la forêt de Bercé se sont constituées en fait... en association des communes pour la valorisation
de la forêt de Bercé. L'association des 11 communes de la forêt de Bercé.
Voilà. Oui. Moi, ce qui me surprend le plus, c'est que Thoiré, qui a quand même une proximité en fait très très importante avec la forêt de Bercé, en fait accepte justement cette implantation qui a un impact visuel énorme. Mais je dis bien énorme parce que ça domine en fait l'intégralité en fait pratiquement de la limite de la commune de Chaaigne jusqu'à la limite de la commune de Jupille. Donc en fait, vous voyez un petit peu, c'est la partie principale en fait de la commune de la forêt de Bercé. Et en fait, je ne comprends pas que les maires de cette association ne soient pas un peu plus en position radicale contre le projet.
La co-visibilité, c'est un des sujets sur lesquels on parle beaucoup, parce qu'en fait, en réalité, on n'a pas que les autres et pas sa propre commune. Je prends encore l'exemple de Bessé. Le Bessé a mis effectivement son projet sur des terrains en hauteur et sera jamais visuellement impacté par les éoliennes. Mais vous impactez la commune de Bonnevaux qui est dans le 41, donc là vous êtes dans un autre département, donc vous n'avez pas accès à l'information ni au pouvoir de donner aussi son avis. Donc c'est très compliqué. Et vous êtes souvent, nous on est en limite de commune, limite de communauté de communes, limite de département. Tout ça fait que, en fait, ça complexifie énormément la façon dont on peut répondre à ça. Mais quand vous faites un projet comme celui de Bessé ou comme celui dans l'ensemble des projets qui sont autour de nous, vous impactez jusqu'à trop, vous impactez des communes qui sont touristiquement très intéressantes aussi et qui verront tous ces projets. Vous impactez sur des dizaines de kilomètres en réalité. Et tous ces projets sont faits, dans tous les cas, aux confins des communes. C'est-à-dire que vous impactez vos voisins, mais pas vos communes. La plupart du temps, vos communes, vous les préservez finalement parce qu'elles sont situées, je vois, pour Bessé ou même pour Loire-en-Vallée, vous êtes éloigné vraiment du projet lui-même. Donc c'est un peu difficile.
Dans notre périmètre à nous, les communes autour du projet ont, dans la plupart des cas, invité le promoteur à venir les rencontrer et ont terminé très souvent en prenant des délibérations pour refuser l'implantation de ces éoliennes. Puisque vous avez un impact de 6 km, si vous voulez, à peu près autour d'un mât d'éoliennes.
Et souvent, comme disait Philippe tout au début, quand vous regardez en fait l'implantation, en fait, les projets d'implantation aujourd'hui en Sarthe, ils sont toujours en limite de département. Donc en fait, l'impact sur le département est important, mais l'impact sur les départements limitrophes est encore plus important. Donc on est toujours en fait dans cette notion, si vous voulez. Je reviens là-dessus, l'humain ne compte pas là-dedans. C'est-à-dire, en fait, on ne prend pas conscience de l'impact que ça peut avoir sur les individus, sur les populations. On regarde simplement, il faut implanter des éoliennes. Donc, on détermine, en fait, un certain nombre de positions. Si possible, les plus complexes au niveau de la contestation. Donc, en fait, en mettant ça en limitrophe de département ou en limite de commune, ou d'intercommunalité, de façon à minimiser complètement et à noyer en fait le projet dans une contestation un petit peu plus limitée.
Alors on arrive au terme de notre émission. Est-ce que chacun peut nous dire où en est votre projet, où en est le projet éolien et si vous avez justement des réunions à annoncer ou des dates à venir pour chaque association?
Pour Vent Contraire sur la vallée du Loir, nous sommes donc sur le projet de Bessé-sur-Braye face à l'enquête publique qui va avoir lieu dans les prochains mois. Très très vite en fait. On n'a pas de date à donner malheureusement parce qu'ils sont très flous sur le sujet. C'est quand même le département qui est en train de, à nouveau, puisque c'est la deuxième fois qu'ils déposent le projet quand même, donc ils sont encore en train d'étudier le dossier. Globalement, ça devrait se faire maintenant assez vite. Sur le projet de Loire-en-Vallée, Ruyer sur le Loir, le promoteur nous a dit que ce serait en enquête publique à la fin de l'année. Là, pour l'instant, on va se contenter de faire une réunion à nouveau très prochainement. Alors, j'ai pas la date parce que comme les informations se bousculent un petit peu là sur à nouveau Loire-en-Vallée, on devrait avoir cette fameuse réunion avec les élus. On aura donc un retour. On espère être présent. On espère pouvoir être invité à cette réunion. Mais si on ne l'est pas, on aura les retours et à partir de là, on pourra redonner à la population les informations, les dernières en tous les cas sur le sujet.
Et nous, on relaiera à l'antenne évidemment toutes les réunions que vous pouvez organiser.
Absolument.
Vos coordonnées pour
Vent Contraire sur la vallée du Loir, plutôt par mail ventcontraire72@gmail.com. On a un Facebook Vent Contraire, on a un blog. Mais bon, globalement, par mail, c'est encore le plus simple de nous contacter. Et puis après, ça nous permet aussi, parce qu'en direct, par téléphone, c'est toujours un peu compliqué à gérer. Donc, par mail, on peut avoir la possibilité d'avoir le temps d'étudier, enfin de classer toutes les demandes et d'y répondre.
Christophe Cala.
Alors, nous, je vous ai indiqué effectivement que le dossier avait été
rejeté par la préfecture.
Rejeté par, effectivement, monsieur le préfet. Alors, le promoteur peut faire appel. il a à peu près 2 mois pour aller en appel, comme il peut faire ce qu'on appelle un recours gracieux, c'est-à-dire au vu des observations et remarques qui lui ont été faites, de dire j'en tiens compte et du coup je reprends. Donc vous voyez que nous ne sommes pas encore effectivement sortis de l'auberge, et là on tombera dans les soucis financiers que je vous ai indiqués, si jamais, comme le promoteur peut très bien dire « je vais faire appel » et l'avant-dernier jour dire qu'il a retiré son appel. Mais on va toujours vivre dans un climat d'incertitude qui est relativement désagréable. Alors, je vous donne l'adresse mail, effectivement, de notre association, 72 PVL, en minuscule PEV, 2LL37, @gmail.com. 37 Indre-et-Loire, puisque nous sommes limite complètement Indre-et-Loire-Sarthe.
Nous, sur Thoiry, en fait, on attend maintenant le dépôt là, du dossier environnemental. On se prépare pour ça. Donc, on a des réunions, je dirais, avec... Il y a un groupe qui est un petit peu plus présent, mais par contre, on a une communication qui marche assez bien, puisqu'on a en fait un compte Facebook sur lequel en fait, on fait part justement de toutes les décisions importantes, etc. et tout. Et le Facebook, c'est très simple, c'est Dinan Libre. Vous faites Dinan Libre sur Facebook et vous avez accès à notre compte. Après, en fait, comme disaient Christophe et Philippe, bon, c'est par mail que c'est le plus simple. Donc, en fait, on a le mail, c'est dinanlibre@gmail.com. On répond aux questions qui nous sont posées. Bon, c'est vrai que on n'est pas très nombreux, en fait, au niveau de l'administratif. Donc, des fois, ça met un petit peu de temps. Mais on prend toujours en considération, en fait, une demande et on essaye d'être le plus précis possible dans nos réponses.
Est-ce que vous auriez une petite conclusion à apporter chacun à cette émission ?
Je vais commencer, puisque j'avais la parole, donc je commence. Moi, ma conclusion, c'est que je suis très en colère, en fait, contre ces projets qui ne tiennent absolument pas compte, comme je le disais et je le répète, de l'humain, parce qu'en fait, on fait des choses, et on fait des choses dans la dissimulation, ce qui est pire encore que tout, parce qu'on occulte, en fait, la réalité des choses. Voilà. Donc, très en colère.
Ça permet à l'association, effectivement, d'avoir sur sa commune et son environnement un regard, je vais dire, positif pour se rendre compte de la valeur d'un patrimoine qu'on a et de la nécessité d'en faire prendre conscience aux uns et aux autres et de dire quelle chance on a, gardons-le. Donc, même si c'est usant, plus qu'usant, j'ai pris conscience de beaucoup de choses que j'ignorais dans mon village et une rencontre avec des habitants assez extraordinaire.
Moi, j'ai envie de dire, continuons à protéger la vallée du Loir de ses implantations industrielles. Et puis, nous, on ira jusqu'au bout, puisqu'on on est toujours aussi motivés pour défendre ce territoire. Et voilà.
Alors, j'espère que cette émission a apporté beaucoup d'informations à nos auditeurs. Merci beaucoup, messieurs, pour avoir passé cette heure avec moi et d'avoir pu échanger sur ce sujet, on le disait, très délicat sur notre territoire et même dans la France entière. Merci à vous.
Merci à vous de nous avoir reçus.
Contact FM, communication.